Alors mon texte se trouve ce matin dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu, l'Ancienne Alliance, au chapitre 55 du prophète Ésaïe. Ce sont des versets que sans doute vous connaissez, mais je vais les relire. Ésaïe 55, versets 6 à 9. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. Voilà donc une déclaration du Seigneur lui-même. Et Dieu dit, je suis au-dessus et mes pensées et mes façons d'agir ne sont pas comme celles des hommes. Et nous ne devons pas chercher à mettre Dieu dans une boîte, à essayer de le caser dans nos propres pensées humaines. Dieu est au-dessus de nous. Sa pensée nous dépasse. Sa façon d'agir nous étonne souvent. Quand il suffit de lire la Bible. Dieu ne fait jamais les choses comme on l'attend. Il n'est jamais là où on le pensait. Il a une façon de faire qui nous surprend très souvent et on peut même l'expérimenter dans notre propre vie. Mais en lisant ces versets, on pourrait se dire, mais bon, ses pensées sont tellement élevées, ses façons d'agir sont tellement différentes, alors Dieu est inconnaissable. Donc il vaut mieux que je sois agnostique, c'est-à-dire je vis ma vie en disant, ben, Dieu, il est dans son côté, moi je suis du mien, et surtout ne nous croisons pas. Non, ce n'est pas du tout l'enseignement de la Bible, évidemment. Si Dieu a inspiré les Écritures, c'est pour nous parler, c'est pour qu'on le connaisse, pour qu'on puisse savoir sa pensée, justement. La pensée de Dieu, elle est dans la Bible. Elle a été révélée là. Et on peut dire, oui, mais ce sont des hommes qui ont écrit la Bible, certainement, mais ce sont des hommes inspirés par l'Esprit de Dieu. Et ça se voit chaque fois que vous lisez la Bible. Il y a une unité, il y a une sagesse, il y a une puissance. Il y a des vérités qui sont surhumaines dans la parole de Dieu. Notamment celle-ci. Les hommes, quand ils fabriquent leur propre Dieu, ils font des dieux à leur image, à leur pensée. Mais le Dieu de la Bible, il nous dépasse, on n'arrive pas à le saisir, parce qu'il est le Créateur, le vrai Dieu, notre Créateur. Et nous avons besoin de connaître ce Dieu et d'y chercher l'Éternel. Il faut chercher Dieu. Il est à notre portée, mais il faut faire l'effort, il faut aller vers lui. Qui es-tu? C'est arrivé hein, dans un certain nombre de tribus perdues ou au fin fond de la forêt équatoriale ou du désert ou de la brousse, que des hommes qui ne connaissaient que l'animisme, ils adoraient des animaux, des arbres, des nuages, se sont dit, mais il y a bien quelqu'un qui a fait tout ça. Moi, quand je fabrique un pot, ben c'est moi qui le fabrique, je vois bien qu'il y a un créateur, et là, tout ça, ce serait venu comme ça. Non, il doit y avoir un créateur. Ils ont commencé à chercher le créateur. Et nous aussi, encore aujourd'hui, nous devons chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Mais ce qui est difficile avec Dieu, justement, c'est que sa pensée n'est pas comme la nôtre. On ne peut pas juste raisonner Dieu. Ce n'est pas possible. Notre raison va être limitée. C'est pour ça qu'il y a la révélation de la Bible. Et à travers la Bible, on peut voir un peu quelle est la pensée de Dieu. Et j'aimerais mentionner trois choses quatre même, ce matin, qui sont par rapport à Dieu, au fait que sa pensée nous dépasse. La première, c'est que Dieu voit le péché plus grave que nous le voyons nous-mêmes. Ce n'est pas le point le plus agréable, parce que ça parle du péché. C'est un mot d'ailleurs qui disparaît de la langue française. On essaie de trouver d'autres acceptions. On parle, il y a le mal, et encore... On ne sait plus comment le définir, il y a les erreurs, les faiblesses. Mais la Bible parle du péché. Le péché dans la Bible, c'est un mot très particulier en grec et en hébreu qui veut dire manquer le but. Et le péché dans la Bible, c'est le fait de ne pas suivre la loi de Dieu ni la volonté de Dieu. C'est passer à côté, hein, manquer la volonté de Dieu. Le péché, pour nous, on en rit, on dit une peccadille, hein, en français. Hein, c'est un petit péché, c'est une peccadille. Mais ça vient du mot péché, hein, en latin. Et on minimise beaucoup le péché dans nos vies. On ne réalise pas à quel point ça a des conséquences effrayantes. Dans le psaume 96, 13, il est dit que Dieu jugera le mal et le monde. Je vais lire le verset. Psaume 96, 13. Devant l'Éternel, poussez des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. J'aimerais qu'on réalise qu'il y aura un jugement de Dieu sur le péché, les péchés, et que ce jugement ne sera pas comme le jugement des hommes. Les hommes, ils passent à côté de plein de choses. Les hommes ne peuvent pas lire dans le cœur. Dieu, il jugera le monde avec justice parce qu'il est absolument parfait lui-même, absolument juste. Il n'y a aucune iniquité. Dieu ne peut pas se faire tromper. Il est absolument parfait. Il est un juge parfait. Mais en plus, il peut lire dans nos pensées. Bon, c'est terrible en fait. Parce que nous, on essaye de se cacher, de faire semblant. On a un masque, on a une hypocrisie, on a des excuses, on se justifie. Mais devant Dieu, tout ça tombe. Parce que Dieu, avec son regard saint, nous transperce. Il voit tout et il jugera tout. C'est quelque chose de vraiment désagréable pour notre nature humaine. Et d'ailleurs, c'est une preuve que Dieu existe et que le péché existe. C'est que lorsqu'on parle de péché, lorsqu'on parle de jugement, lorsqu'on parle de sainteté, il y a en nous une rébellion qui monte. Pas si vous ressentez ça. Non! C'est trop le péché. Non, c'est la religion qui a inventé le péché. La sainteté, mais c'est horrible. Moi, je préfère un peu de mal, un peu de péché. Au moins, on s'amuse. La sainteté, c'est triste. Et on essaie d'envoyer plein de choses. Mais il y a une rébellion. Pourquoi il y a cette rébellion? Si le péché n'existe pas, si Dieu n'existe pas, s'il n'y a pas de justice à la fin des temps, je vais pas à me faire de soucis. Pourquoi est-ce qu'on se sent coupable? Pourquoi on vit avec des fardeaux de culpabilité? Parce que le péché existe. Le péché, c'est par rapport à Dieu. On sait qu'on n'est pas en règle avec Dieu. Et ça nous dérange. Quand on était enfant, souvenez-vous, et les enfants, vous n'avez pas besoin de vous souvenir, vous y êtes, vous les jeunes, les ados. Quand vous vous brossez les dents, alors, hop, et les parents viennent derrière. Ah non, 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 non. T'as pas fait assez. Il faut une minute. Oh là là. Après, vous faites un dessin, vous trouvez ça magnifique, vous dites, regarde maman, regarde papa. Ah oui, mais là, t'aurais pu quand même faire attention, t'as dépassé un peu. Et... oh là là. Et il y a en nous, dès l'enfance, cette rébellion contre ce qui est perfectionniste ou ce qui est saint. On n'aime pas la sainteté, parce que nous-mêmes, on n'est pas parfaits. Pourquoi Jésus a-t-il été crucifié? Pourquoi a-t-il été haï? Avec une haine diabolique, vraiment, c'était fort. Lorsque la foule a crié « Crucifie-le !» On va en reparler à Pâques. Hein. Il y avait une haine incroyable. Jésus n'avait fait que du bien. Il guérissait les malades. Il s'occupait des lépreux. Il prenait soin des femmes abandonnées. Il chassait les démons, des gens qui étaient torturés par ces esprits mauvais. Quel mal a-t-il fait? Pourquoi cette haine? Parce qu'il était saint. Et ça dérange. Encore aujourd'hui, on parle du bon Dieu. Pourquoi on parle du bon Dieu? Parce que ça veut dire, il va passer sur toutes mes fautes, hein, le bon Dieu. Mais si on dit Jésus-Christ, il y a en nous une rébellion. Il y a quelque chose qui nous dérange. Quand j'étais athée, c'était particulièrement fort. Aujourd'hui, que je suis chrétien, c'est différent, évidemment. Mais quand j'étais athée, il y avait cette rébellion. Jésus, le nom de Jésus, ça me dérangeait. Sa sainteté, le fait qu'il soit juste. Le péché sera jugé. Et le péché a déjà des conséquences présentes. Lorsque on désobéit à Dieu, on dit oh, c'est pas grave, de toute façon, on sait même pas s'il y a un Dieu, et puis tout le monde le fait, et puis moi, je suis pas pire que les autres, et pourquoi je ferais pas ça, et pourquoi je m'amuserais pas un peu aussi. Et même si notre conscience nous accuse, on passe sur la conscience, oh, ça suffit, hein. Amusons-nous! Mais on ne réalise pas que chaque péché dans lequel nous mordons, hein, a des conséquences, pas seulement sur nous, mais sur ceux qui nous entourent. Le péché est quelque chose qui détruit tout. Ça doit être notre ennemi et non pas notre ami. Lorsque Adam et Ève ont mangé ce fruit, pour eux, c'était prendre un petit plaisir, hein. Comme quelqu'un qui va manger du chocolat en cachette, hein, alors qu'il sait qu'il n'a pas le droit, ou je ne sais pas, peu importe. Ah, ce fruit, il est beau, il est bon, moi je vais le manger. Puis le serpent, il m'a dit que je pouvais en manger, que je ne risquais rien. Ils ne sont pas rendus compte du cataclysme que ça allait induire, de la malédiction sur la terre, la mort, le fait que leurs enfants allaient s'entretuer, hein, Caïn qui assassine son frère. Quand ils ont pris le fruit, ils ne pensaient pas, ils ne voyaient pas tout ça. Mais Dieu, lui, il voit tout ça. C'est pour ça que pour lui, le péché est plus grave que pour nous. Il voit toutes les conséquences. Il voit comment ça nous détruit. Nous, on pense à s'amuser parce que le serpent nous dit, régale-toi. Mais Dieu, il voit la destruction derrière. Et maintenant, qui est-ce que je vais écouter? Le serpent? Ou Dieu. Bien sûr, Dieu, c'est un peu le père fouettard ou je sais pas, le parent qui est toujours en train de me dire non, faut pas faire ça. Et ma rébellion va contre Dieu. Et ça, le serpent me paraît bien sympathique à côté. Parce qu'il dit oh bah vas-y, oh t'es libre, t'es grand, allez, faut un peu s'amuser dans la vie. Et combien de fois je l'ai écouté, ce serpent? Et chaque fois, j'ai été mordu, hein, par son venin. Et esclave de péché. La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, c'est pas que je vais prendre 3 kilos si je mange un peu trop de chocolat. Le péché, c'est pas que je vais me faire prendre par le trésor public si j'ai pas tout déclaré dans mes impôts. Le péché, c'est la mort. Ça me tue éternellement. Quand je vais mourir physiquement, si je suis encore dans mes péchés, je vais mourir éternellement, je vais être perdu. La Bible dit même que celui qui pêche contre un seul commandement de Dieu a péché contre tous les commandements. C'est-à-dire que pour Dieu, un seul péché est suffisant pour vraiment nous condamner, nous rendre coupables. Il est dit dans le livre des Nombres, dans l'Ancien Testament, que Dieu ne laissera aucun péché impuni parce qu'il est juste, justement. Tout péché doit être jugé. Quand on pense à ça, c'est effrayant. Et ce n'est pas agréable. Mais il faut voir la vérité en face parce que Dieu nous aime. Et c'est ça qui est merveilleux. Le seul qui peut nous perdre éternellement, qui est le seul juge absolu, il nous aime. Il ne veut pas qu'on reste dans le péché. Lorsque le roi David avait commis l'adultère avec Bathsheba, pardon. Donc c'était sa voisine d'à côté, il était sur le toit de son palais et il l'a vue en train de prendre un bain, il a été attiré vers elle. Comme il était roi, il l'a fait venir dans son palais et il a commis l'adultère avec elle. Elle est tombée enceinte, elle a eu un bébé qui est mort peu après sa naissance. Le mari est revenu de la guerre pour aller vers sa femme et il a vu, ils se sont dit, s'il voit qu'elle est enceinte et que lui n'a pas eu de relation avec elle, il va dire, ma femme m'a trompé. Et elle sera peut-être mise à mort, hein, condamnée à mort. Et David et Bathsheba ne voulaient pas ça et David a décidé d'envoyer le mari, qui était un homme fidèle, fidèle au roi, fidèle à sa femme, fidèle à son pays, en première ligne de la bataille pour qu'il soit tué. Quand vous étiez en première ligne, vous aviez toutes les chances de ne pas en sortir vivant. Et c'est David, le chef des armées, le roi d'Israël, qui a fait ce péché grave. Il a ajouté péché sur péché. Quand il a regardé Bathsheba, il n'a pas pensé à la mort du bébé. Il n'a pas pensé à l'assassinat de Uri, le mari. Il n'a pas pensé aux conséquences, il a pensé juste « Oh, je me ferai bien un petit plaisir avec cette jolie femme. » Et pendant un an, il est resté avec ça, avec ce meurtre, ce bébé qui était mort, ce deuil, avec cette culpabilité. Et il commençait à s'endurcir. Vous savez, au bout d'un an, on peut s'habituer à la douleur de la conscience. Et Dieu a dû envoyer un prophète qui s'appelait Nathan. Ce prophète lui a dit « David, j'aimerais te raconter une histoire. » Alors David a dit « Vas-y. » C'est une histoire inspirée. C'est un voyageur qui vient dans un pays et il s'arrête chez un homme riche. Et il dit « Peux-tu me loger pour la nuit et me faire à manger ?» C'était l'hospitalité orientale, hein. C'est comme ça que ça se passait. Il n'y a rien de choquant là-dedans. Et l'homme riche, qui avait tout un troupeau extraordinaire de brebis, a dit « Ah oui, ben mon voisin, il a justement une petite brebis, il est très pauvre, je vais aller prendre sa brebis pour te faire à manger. » Et donc, au lieu de puiser dans son troupeau, lui qui était riche, il va chez son voisin qui est pauvre, lui voler sa petite brebis qu'il chérissait pour la tuer et la donner à son visiteur. Nathan dit à David, « Que mérite cet homme ?» Et David se dresse, il dit, « Il mérite la mort. » Et Nathan lui dit, « Cet homme, c'est toi. » La brebis, c'est Bathsheba. Le mari, hein, c'est le propriétaire de la brebis. Tu as pris sa brebis. Toi, tu avais toutes les femmes de ton harem. Tu as été chercher une femme. Tu as été assassiner son mari. C'est toi, cet homme. Et c'est bon quand Dieu nous dit c'est toi, finalement. Sinon, on reste dans l'aveuglement, dans l'illusion qu'on est bien, que tout va bien. Mais le péché est plus grave aux yeux de Dieu. Et Dieu a envoyé le prophète pour que David reconnaisse ses fautes. Il a écrit un psaume, le psaume 51. On ne va pas le lire en entier, mais où David reconnaît ses fautes. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David soit allé vers Bathsheba. « Ô Dieu !» écrit David. « Aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. Mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. » Dieu voit le péché plus grave que nous, mais Dieu veut qu'on voit aussi le péché comme lui, avec ses yeux à lui. J'en parle souvent avec la cigarette, parce que c'était mon expérience. La cigarette est un poison, une addiction. Ce n'est pas le plus grave des péchés sur la terre. Hein. Mais quand même, on se détruit soi-même. Hein. On raccourcit sa vie et on raccourcit celle de ceux qui nous entourent quand on fume. Mais tant qu'on aime la cigarette, tant qu'on la chérit, tant qu'on ne voit pas la vérité que c'est un poison que je suis en train... Est-ce que tout le monde aime s'empoisonner? Est-ce que vous buvez de l'arsenic tous les jours? Pourtant, il y a de l'arsenic dans les cigarettes. C'est comme si on buvait un verre d'arsenic. Mais tant qu'on ne voit pas le péché tel qu'il est, mon ennemi, celui qui me détruit et qui détruit tous ceux qui m'entourent, tant qu'on ne voit pas le péché comme Dieu le voit, celui qui a fait clouer Christ sur la croix, on peut dire, hein, on ne réalise pas la pensée de Dieu. Et on a besoin d'être comme Dieu, de voir les choses comme lui, pour avoir une vie droite. Mais ce qui est extraordinaire, c'est le deuxième point, c'est que Dieu voit le pécheur avec plus d'amour que nous. Alors, il voit le péché plus grave, mais il voit le pécheur avec plus de miséricorde. On a lu au début dans Ésaïe 55, « Notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » Nous, on se lasse. Hein. Vous vous rappelez, Pierre, « Combien de fois pardonnerai-je à mon frère ?» Est-ce que ça, jusqu'à 7 fois? Pour lui, déjà, 7 fois, c'était beaucoup. Et Jésus dit non, jusqu'à 70 fois, 7 fois. C'est-à-dire, une infinité de fois. Pourquoi Jésus a dit ça? Parce que Dieu fait comme ça. Dieu est comme ça. Il est un Dieu de miséricorde. Autant il est saint, juste, autant il veut sauver, pardonner, plus que nous encore. Il est dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est-à-dire le péché ne peut pas triompher de Dieu, sa grâce est encore plus grande que le mal. Et elle va triompher. Christ a payé sur cette croix pour les pires des péchés, pour les pires des pécheurs. Je pense à Saul de Tarse, celui qui allait devenir l'apôtre Paul. Saul de Tarse était un ennemi de Jésus, un ennemi des chrétiens. Il les faisait tuer parce qu'ils étaient chrétiens. Il en a fait tuer plusieurs. Il a été témoin au martyr d'Étienne, un des premiers chrétiens assassinés pour sa foi. Il était là et je pense qu'il était content qu'Étienne meure lapidé sous ses yeux. Cet homme-là a été transformé. Il est devenu l'apôtre Paul. Paul, ça veut dire petit. Il est devenu le petit apôtre. Il dit, moi, je suis le dernier parce que j'ai persécuté l'Église avant ma conversion. Lorsqu'on était à Aix-en-Provence, il y a plusieurs années, il y avait dans l'église d'Aix un frère qui était un ancien légionnaire. C'était un gars des Pays de l'Est et il nous a raconté un peu son témoignage. Il dit, j'ai fait des choses qui me font honte encore aujourd'hui. J'ai fait des choses violentes. J'ai tué des gens d'une façon que je n'aurais pas dû en tant que légionnaire et même en dehors. Il dit, j'ai même fait de la prison. Mais un jour, j'ai rencontré le Seigneur. Il dit, j'étais un dur de dur de dur. Vous savez, un légionnaire, un mauvais légionnaire, si on peut dire. Il y a des très bons légionnaires. Hein. Mais lui, c'était un mauvais, un légionnaire violent, dangereux. Et il dit, le Seigneur s'est révélé à moi. Et j'ai compris que Dieu m'aimait et que j'étais perdu. Et je lui ai dit, sauve-moi parce que moi, je suis vraiment trop méchant. Et il dit, le Seigneur m'a pardonné. C'était quelque chose de parler avec cet homme. D'abord, il vous est un peu, il vous impressionnait. Comment Dieu peut sauver les pires des personnes? Il y a des gens dans les prisons américaines qui sont condamnés à mort parce qu'ils ont assassiné plusieurs personnes des fois, mais qui se sont repentis dans leurs cellules. Et vous les voyez après vivre, ce sont des saints. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait en prison, lui? Il chante des cantiques, il parle aux autres, il aide, il partage. C'est pas possible, il s'est trompé. Il y a une erreur judiciaire, non? Il est vraiment là parce qu'il a tué des gens, mais Dieu a changé sa vie. Nous, on est prêts à la vengeance contre ces gens-là. Rappelez-vous aussi, dans les évangiles, la femme adultère, cette femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère, au lieu d'amener les deux, l'homme et la femme, on n'amène que la femme, parce qu'à cette époque-là, c'était que la femme qui était coupable, bien sûr. Et Jésus est présent. On lui dit, regarde, elle a commis l'adultère, hein, il faut la lapider sur place. Et Jésus répond, mais que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et personne n'a jeté de pierre. Et il a dit à cette femme, je te pardonne, ne pêche plus. La miséricorde de Dieu. Nous, on aurait peut-être jeté des pierres. Les Samaritains qui étaient honnis des Juifs. Qu'est-ce qu'on aurait fait avec les Samaritains? Est-ce qu'on aurait suivi Jésus qui est allé en Samarie alors que personne ne mettait les pieds en Samarie? Est-ce que j'aurais parlé avec cette femme qui vivait en concubinage, qui était une samaritaine, qui avait eu plusieurs hommes dans sa vie, qui était un peu paumée, et Jésus a parlé avec cette femme et lui a annoncé le salut, et cette femme est devenue une chrétienne, transformée. Cette femme prostituée, Marie, qui vivait de la prostitution, Jésus est allé vers elle, et elle a été pardonnée de ses péchés, elle a changé de vie. Nous, on ne serait pas comme ça. On dit, non, il faut les punir. Ça, c'est des gens mauvais. Moi, j'ai une vie morale. Moi, je suis très bien. Mais ça, les prostituées, les étrangers, les ceci. Dieu est plus miséricordieux que nous, fort heureusement. La miséricorde, c'est de ne pas donner la punition qu'on mérite. Hein. C'est ça, la miséricorde. Dieu ne nous punit pas comme on le mériterait. Il patiente. La Bible dit qu'il a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour pouvoir faire miséricorde à tous. Nous sommes tous pécheurs, tous coupables, mais Dieu peut faire miséricorde à chacun. Quiconque croit, dit la Bible, peut être sauvé. Dieu voit le péché plus grave que nous, oui, mais il voit le pécheur avec plus d'amour, plus de patience, plus de grâce. Dieu aussi peut lire dans les cœurs ce que nous ne pouvons pas faire. Nous nous regardons à l'apparence. Si vous regardez 1 Samuel 16 dans l'Ancien Testament, verset 7, l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Nous, on regarde à ce qui frappe les yeux. On est impressionné par l'apparence physique, de plus en plus d'ailleurs. Mais Dieu, il regarde au cœur. Je dis ça aussi pour ceux qui cherchent un conjoint. Ne regardez pas à l'apparence seulement. La tendance, si on suit notre société occidentale, hollywoodienne, si je cherche un conjoint, il faut qu'elle soit belle, glamour, sexy, intelligente. Il faut qu'il soit beau, musclé, mince. Bon, ça élimine pas mal de gens. C'est le seul avantage. Sauf que si vous n'êtes pas comme ça, n'essayez pas de chercher des gens comme ça. Hein. Ce qui compte, c'est quand même premièrement le cœur. Quel est le cœur, l'âme de cette personne? Est-ce qu'elle a une belle âme? Est-ce que, regardez ce chrétien sans bras et jambes. Hein. Ben, il s'est marié, il y a une femme qu'il aime. Il a eu un enfant. Est-ce que vous épouseriez un homme sans bras ni jambes, mesdames? C'est dur, hein? Il est né comme ça, hein, d'une famille chrétienne. Il a toujours marché avec le Seigneur. Il a une vie extraordinaire. Hein. Il fait plein de choses. On ne sait pas comment, mais il y arrive. Et il s'est marié. Il a eu un enfant. Voilà. Et cette femme, qu'est-ce qu'elle a vu? Est-ce qu'elle dit « Ah, il va me prendre dans ses bras » Non. « Ah, on va faire du jogging ensemble » Non, ce n'est pas possible. Mais elle a une relation avec lui qui est spéciale, qu'on pourrait peut-être jalouser, hein. Parce que c'est autre chose, elle voit au cœur. Et Dieu, lui, s'intéresse à nos cœurs. Il pèse les cœurs, il voit le cœur et non pas l'apparence. Et nous devons avoir la même pensée que Dieu dans ce domaine. Voir le cœur des personnes. Voir plus loin que leur apparence. Une dernière chose que Dieu voit et que nous ne voyons pas toujours, c'est que Dieu voit les choses éternelles. Ça aussi, ça, c'est quelque chose qui nous dérange parce que nous sommes très attachés à notre vie terrestre. Et c'est normal, on est fait comme ça. On vit maintenant. Mais il y a une vie après la mort. La Bible en parle constamment. Il y a l'au-delà, il y a la vie éternelle. Où est-ce que je vais aller après la mort? Ma vie est courte, même 80 ans, c'est court finalement. Ça passe vite. Et après? Après. Jésus a dit en Matthieu, « Amassez-vous des trésors dans le ciel et non pas sur la terre. » Nous, on amasse sur la terre, mais ce qui compte, c'est les choses pour le ciel. Pierre nous parle d'un héritage qui nous est réservé dans les cieux, un héritage incorruptible. Et dans Hébreux 11, j'aime ces passages où il parle des témoins d'autrefois, ces hommes et ces femmes de foi qui voyaient plus loin qu'eux-mêmes. Par exemple, Abraham, il vivait à Ur, c'était une ville riche, une ville très développée pour l'époque, hein, 2000 ans avant Jésus-Christ. Il était lui-même un homme important. Et Dieu, lorsqu'il rencontre le Seigneur, Dieu se révèle à lui, et Abraham croit en Dieu et fait confiance à Dieu. Dieu lui dit, quitte ta maison, quitte ton pays, et va dans un pays que je te montrerai. Et Abraham obéit. Dieu ne dit pas, tu vas aller dans tel pays, à tel endroit, et là tu seras... Non. Tu vas dans un pays que je te montrerai. Et par la foi, il suit le Seigneur. Et la Bible dit qu'il a suivi le Seigneur parce qu'il voyait la cité que Dieu lui réservait, une cité future, céleste. Il ne savait pas ce que c'était, mais il a suivi le Seigneur. Est-ce que Abraham s'est trompé? Non. Il a été quasiment toute sa vie un nomade. Il avait ses tentes, ses troupeaux, mais Dieu l'a béni. Et il a eu une vie bénie. Moïse était à la cour du Pharaon. Il a été élevé par la fille du Pharaon, donc il avait toutes les richesses, le pouvoir, la culture de l'Égypte de l'époque qui était à son apogée. Et lui, c'était un juif caché, hein. Et à un moment, lorsqu'il voit son peuple réduit à l'esclavage, maltraité, il a dû faire un choix. Ou je reste dans le confort de la cour égyptienne et je passe sur mes petits remords au sujet de mes frères, ou je vais à la défense de mes frères esclaves. Il a dû faire ce choix. On a tous un choix similaire à un moment. Je choisis les choses qui m'arrangent maintenant ou je choisis les choses éternelles. Parfois, on dit, si je mens, je vais m'en tirer sur le coup, ça va bien se passer. Si je dis la vérité, ça va mal être accepté. Alors on choisit de mentir. Dieu veut qu'on dise la vérité. Dieu veut qu'on choisisse l'opprobre. Et ici, dans Hébreux 11, hein, il est dit que, verset 26, 25, « Moïse préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. » Il y avait les richesses de l'Égypte, et Dieu sait si l'Égypte était riche. Et il y avait l'opprobre du Messie, parce que Jésus n'était pas encore là, mais il y avait le Messie. L'opprobre du Messie, c'est quoi? Le fait de suivre le Messie, c'était une honte. C'était un problème. Il allait se ranger du côté des Hébreux, qui étaient le peuple du Messie. Il allait donc devenir esclave aussi, il allait être maltraité. Il a choisi de se ranger du côté du Messie, de souffrir. Aux yeux de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, ça paraît stupide. Écoute, tu peux être riche maintenant, et toi tu vas choisir d'avoir des problèmes. Non mais, t'as pas réfléchi une seconde? Si justement, j'ai réfléchi. Je choisis de suivre le Seigneur. Parce que même si j'ai peut-être des problèmes, il y a une opprobre à être chrétien, néanmoins j'ai la vie éternelle. J'ai le salut, j'ai la paix dans mon âme. Je n'ai pas des problèmes pour dormir la nuit, parce que je suis pardonné de mes péchés en Jésus-Christ. Et surtout, j'ai un héritage qui m'attend. Est-ce que je pense à l'éternité? Est-ce que j'ai un héritage que je prépare? Comment avoir un héritage? Ça veut dire qu'il faut vivre pour les choses éternelles aussi. Les choses éternelles, ce sont les âmes particulièrement. Les âmes sont éternelles. Est-ce que je m'occupe des âmes? Ou est-ce que je suis obsédé par les choses? Voilà, j'ai des choses. Mais les âmes sont plus importantes parce qu'elles vivent éternellement. Est-ce que j'annonce l'évangile? Est-ce que je sers mes frères et sœurs dans la foi? Est-ce que je mets du temps pour le Seigneur? Est-ce que je choisis de mettre le Seigneur devant? De voir les choses éternelles comme Dieu les voit. Ça, c'est le programme qui nous est placé devant nous. Voir le péché plus grave, voir la miséricorde plus grande, voir le cœur et non pas l'apparence, et voir les choses éternelles. Ainsi, nous verrons les choses avec les lunettes de Dieu, comme Dieu les voit, et nous marcherons dans ses pas. Le Seigneur Jésus est notre modèle suprême. Il a payé notre dette. S'il y a ici quelqu'un parmi nous qui n'est pas réconcilié avec Dieu, sachez que le Seigneur vous appelle encore. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Vous pouvez l'invoquer de votre chaise. Dis, Seigneur, je t'invoque. Jésus-Christ, sauve-moi. Délivre-moi, pardonne-moi, car je suis perdu dans mes péchés. On va voir la Sainte-Seine dans un instant. Je demanderai au diacre